En attendant,
approche ton micro.
Oui,
là, je fais des tests de. Non, oui. Je fonctionne.
En attendant le coussin, je veux vous dire bonjour. Vous savez, c'est une première pour moi aujourd'hui. Je suis habituée de parler avec une équipe à Radio-Galilée, puis quand j'ai plus rien à dire, bien, il y en a un autre qui prend la relève. Et quand je suis au groupe de prière, bien, ce sont des personnes avec qui je chemine depuis des années, alors c'est pas fatigant, ils me connaissent. Mais là, c'est un petit peu différent un matin. Alors le cœur me cogne beaucoup, mais moi je dis au Seigneur, je m'abandonne, puis tout ça pour ta gloire. Je le fais vraiment pour la gloire de Dieu ce matin. Et je suis sûre que vous allez m'accompagner ce matin de vos prières silencieuses pour que tout ce qui sortira de ma bouche, ce soit l'Esprit Saint qui en prenne le contrôle.
Monsieur Philippe?
Merci. Ah, c'est le gros confort. Oh boy! Wow! Là, je suis à la hauteur de la situation.
Projette ta voix, parce que quand tu parles doux, on comprend moins.
Est-ce que vous m'entendez?
Projette ta voix.
Okay. OK. Voulez-vous que je parle plus fort? Oui, un peu plus fort? OK. On s'ajuste. Moi, je voudrais commencer par lire la parole d'aujourd'hui où on nous parle de Jésus qui lave les pieds de ses amis, les apôtres. Pour se laisser imprégner de cette parole d'abord, et pour ensemble saisir le message du Christ pour chacun de nous. Alors c'est Saint Jean 13, 4 à 17. Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent. » Mais par la suite, tu comprendras. Pierre lui dit, « Me laver les pieds à moi, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. » Alors Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin d'être lavé, car il est entièrement pur, et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer, et c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, laver les pieds les uns les autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, Vous serez heureux si, du moins, vous le mettez en pratique. Parole du Seigneur. Ben moi, la première chose qu'en méditant cet enseignement, je me disais, merci beaucoup Alphonse. Jésus était vraiment un révolutionnaire. Parce qu'à l'époque, laver les pieds, c'était réservé à l'esclave, qui lui lavait les pieds de son maître. Et Jésus, en posant ce geste-là, nous dit à chacun de faire de même, de l'imiter, de se laver ensemble les uns les autres. Alors imaginez la réaction des apôtres lorsqu'ils ont réalisé que Jésus posait ce geste-là. Et Pierre, qui a réagi avec vigueur, devait représenter pas mal tout le monde, sans, même si on nomme pas les autres devaient dire, mais qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Ça n'a pas de bon sens. Notre maître croyait qu'il était le Fils de Dieu, et notre maître nous lave les pieds. Alors essayons d'imaginer juste ça, là, ce qui a pu se passer dans le cœur et dans la tête des pauvres hommes, parce qu'ils étaient encore très humains. L'Esprit Saint n'était pas encore descendu. Et voit ce geste d'humilité parfait. Parce que Dieu, dans sa perfection, son humilité était parfaite. Puis il nous donnait un exemple extraordinaire. Comment je vis, moi, d'accepter d'être une personne qui lave les pieds, c'est-à-dire au service des autres? Comment est-ce que chacun de nous vivons cet appel du Christ à faire de même, à laver les pieds, parce que le geste que Jésus a posé, il l'a posé après que, quelque temps avant, les apôtres ensemble se disaient qu'elle était le plus grand parmi nous. Et Jésus avait pris un enfant et lui avait dit, c'est lui le plus grand, le petit. Si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc, je ne suis pas venue pour être servie, mais pour servir. À votre tour, servez vos frères. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à être à l'écoute du genre de service auquel l'Esprit Saint m'appelle? Parce qu'on peut vouloir faire beaucoup de choses, s'éparpiller même, pour être utile, pour faire du bien. Mais moi, personnellement, je préfère attendre que l'Esprit Saint m'appelle et me fasse clairement savoir, c'est là que j'aimerais que tu serves. Puis des fois, ça me dérange. Mais avec la prière, avec l'Esprit Saint, avec mes pauvretés, mes fragilités, quand je donne mon oui à l'appel que Dieu semble, auquel il semble m'appeler, ça porte du fruit, ne serait-ce que la paix qui m'habite. Je viens, moi, d'une famille où, toute petite, c'est la fête de Saint-Joseph aujourd'hui, et mon père avait le tempérament de Saint-Joseph, un homme très humble, le chapelet à la main, un homme travaillant, ouvrier. Un homme, je viens du quartier de Limoilou, alors une famille ouvrière, avec le chapelet en famille à tous les soirs. Et mon père était président de la Saint-Vincent-de-Paul, à Saint-Esprit. J'ai grandi sur la 9e rue. Et quand j'avais 5 ans, mon père, il allait porter des bons dans les familles pauvres de la paroisse qui faisaient une demande. Alors, papa, j'étais la dernière de la famille. Tous les autres étaient à l'école, puis moi, je suis arrivée plus tard que tout le monde. Mes parents étaient assez âgés. Et papa me prenait par la main, puis on faisait le tour de la paroisse avec les bons. Moi, je comprenais qu'il apportait quelque chose de bon parce qu'il était reçu à bras ouverts par les mamans qui, en accueillant le bon, ben, c'est donner de la nourriture aux enfants. Mais moi, j'ai 5 ans. Alors, j'ai papa avec moi toute seule. Je le partage pas avec mes frères et sœurs. Puis, ça goûte bon. Papa, il est de bonne humeur. C'est un homme pacifiant, un homme donné. Il a mis son tablier. Quand je repensais à tout ça, en méditant sur mon enfance, je disais, papa avait le tablier. Puis maman aussi, en élevant à la maison la famille. Puis une des premières choses que j'ai vécues à 13 ans, c'est que c'était les vacances d'été à la fin juin. J'étais 13 ans, il n'y avait pas de secondaire à l'époque, mais c'était à peu près l'équivalent de secondaire 2. Du haut de mes 13 ans, je me présente à l'hôpital Saint-François d'Assise, qui est à peu près 10 minutes à pied de chez moi. Puis je demande à parler à la religieuse de Saint-François d'Assise, à l'époque, qui engageait du personnel. Alors je me présente, puis je dis, je veux travailler cet été. Vous? Oui, ma sœur, je veux travailler cet été. Alors, elle me questionne un peu, elle dit, avez-vous déjà travaillé la nuit? J'avais jamais travaillé tout court. Alors, j'ai dit, la nuit? Elle dit, oui, j'aurai un emploi pour vous. Pourriez commencer dans 2 jours. Elle dit, vous travailleriez de 7h à 7h. La nuit. Vous remplaceriez celle qui part en vacances, j'ai personne. Parfait. Allez-vous me fournir? Elle dit, oui, j'ai le sarrau pour gros vous, là, j'ai 13 ans, là. Elle dit, j'ai un sarrau pour vous. Alors, je me présente. Alors, elle m'amène au petit trou, elle me présente à l'infirmière, puis elle dit, elle va travailler avec toi sur le département, il appelait ça le petit trou. C'était pas le gros hôpital d'aujourd'hui, là. C'était une petite section, coin Leclerc, qui est en réparation à l'extérieur présentement. Alors, j'arrive au poste, j'ai 13 ans. L'infirmière, elle dit, la première chose que tu vas faire, elle dit, un plateau, là, tu vas voir, sur le coin de mon bureau, là. Croyez-le ou non, tous les médicaments étaient planifiés. Elle dit, tu vas passer tes médicaments. J'ai 13 ans. Je me disais, quand je réfléchissais à ça, il n'y avait pas de syndicat. Alors, j'avais juste à regarder les chambres, les numéros, puis je donnais le médicament. Puis c'est drôle, quand je pensais à ça, je pensais à Alphonse. Comment il aurait réagi, lui, médecin, de voir une fille de 13 ans passer les médicaments. Et j'ai fait ça pendant un mois. Et je pense que j'ai commencé à mettre mon tablier à ce moment-là. Ça a été une première expérience que j'ai beaucoup aimée et que j'ai répétée 3 étés. Et la religieuse, à chaque année, me redonnait le même département. Ça pouvait être une infirmière différente, alors j'avais le droit de dormir 2 heures pendant la nuit. Je gagnais un salaire de minable, mais c'est pas grave. Je faisais quelque chose que j'avais le goût de vivre. Puis quand j'avais appris ça à mes parents, 13 ans, maman a dit, mais qu'est-ce que tu as pensé? J'ai dit, maman, faites-moi confiance, allez voir, vous le regretterez pas. Et puis, alors, j'ai adhéré à ça, elle aussi, papa aussi. Et ça s'est très, très bien passé. Et un peu plus tard, je vous passe de beaucoup de détails, je suis devenue monitrice dans un camp de vacances. Là aussi, j'ai mis mon tablier, je m'occupais des jeunes, qui m'a donné le goût de, non pas de devenir infirmière, mais enseignante. Alors, j'ai enseigné pendant 8 ans dans le quartier Limoilou, à Saint-Fidèle, à Saint-Paul-Apôtre et à Saint-Charles-de-Limoilou. Et après ça, j'ai rencontré mon mari, qui est ici avec moi ce matin, Gilles. Et nous avons fondé une famille. Et pendant plusieurs années, je suis demeurée à la maison avec des enfants en énorme besoin. J'en ai eu 3. La première est arrivée une erreur médicale, handicapée, intellectuelle, avec hyperactivité et troubles caractériels d'opposition. Ça, c'était juste le numéro 1. La numéro 2, elle est arrivée correcte. La numéro 3 est arrivée, j'avais 40 ans, grossesse, une belle grossesse, mais j'ai eu des accouchements très longs et très difficiles avec l'hyperactivité. Donc, j'avais 2 hyperactifs, une déficiente et une avec trouble caractériel. Alors, inutile de vous dire que mon tablier est resté dans ma maison. Je me suis occupée de ma famille et Gilles était sur le marché du travail. Alors, il me donnait un bon coup de main à l'heure des repas. Ça a été plus qu'intense. On a eu besoin d'aide à l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur. Ça a été pour moi une expérience. Des fois, je disais à Gilles, il me semble qu'on est rendu à notre maîtrise en psychologie, tellement que je découvrais des ressources que j'avais en moi que j'ignorais, parce qu'elles étaient pas, elles étaient comme en dormance, mais que j'avais à exploiter dû à la situation familiale. Et avec une fille qui a vécu une agression sexuelle, avec en cours, avec prison pour celui qui a fait ça, avec des difficultés d'adaptation, notre plus jeune s'est fait mettre à la porte de beaucoup d'écoles. Alors, mon rêve d'avoir une famille avec des enfants qui faisaient des études, on s'est toujours dit tous les deux, on va les rendre jusqu'au bout de leur potentiel. Mais moi, je pensais études, profession. Mon château de cartes a tombé assez bas. J'ai eu à m'adapter à cette façon de vivre à laquelle je n'étais pas préparée du tout. Et pendant des années, je me suis donnée corps et âme avec Gilles pour nos enfants. Et en 92, j'ai complètement disjoncté. J'ai pensé au suicide. J'ai eu besoin d'aide. J'ai crié au secours. Je pense, une facette que je n'ai pas dite, c'est que j'ai toujours été avec Gilles à la messe. Mes enfants ont été baptisés, confirmés. On était même leur catéchète pendant au sacrement. Alors, on a cheminé beaucoup avec les enfants. Mais ma foi, c'était une foi... Je dirais que je n'avais pas rencontré le Christ encore. Ce qui fait que j'avais une foi tiède. Mais elle était là. Et je me dis, le Seigneur attendait son heure. Quand je repense à tout ça, et pendant le temps, les deux années où j'ai vraiment décroché, je pense que c'est Jésus qui a repris le tablier puis qui s'est occupé de moi. Il m'a lavé les pieds pendant ce temps-là. J'ai pris une vacance du tablier et il y a quelqu'un, c'est lui qui a pris la relève à travers toutes les personnes qui ont mis sur la route. Le 5 juin 92, date mémorable dans ma vie, la journée où je cherchais comment me suicider, j'étais dans le sous-sol de la maison et je me suis couchée à terre sur le tapis. Et couchée à terre, j'étais de biais avec la porte, puis j'ai vu au-dessus de la porte une image du Sacré-Cœur que vous connaissez sûrement, qui s'est écrit là, je bénirai les maisons où l'image de mon nom sera honorée et respectée. Puis j'ai vu ça, puis j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qui a mis ça là? C'était peut-être moi, je ne m'en rappelais pas. J'ai pensé que c'était la mère de mon mari, qui était une sainte femme, qui avait à mon insu, à notre insu, mis ça là. Toujours est-il que je ne me rappelais pas de l'avoir déjà vu. Et quand j'ai vu ça, je me suis levée puis je me suis mise à genoux. Puis les seules petites phrases que j'ai dites, « Seigneur, si tu existes, montre-le-moi. » Puis je suis retournée me coucher sur le plancher. 20 minutes plus tard, ça sonne à la porte. Je vais ouvrir, elle dit « Me reconnaissez-vous? » C'était une Marie Fortin. Elle dit, parce que je suis à la clinique médicale à côté d'ici, elle dit, le Seigneur a mis dans mon cœur de venir te chercher pour partir un groupe de prière après-midi. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai décidé d'y aller. J'ai dit, de toute façon, j'ai plus de goût à rien, parce que j'ai rien à perdre. J'étais rendue tellement basse qu'on m'aurait dit, viens-tu te jeter dans le club? Je pense que j'y allais. Quand t'es bas de même, là, j'étais basse, là, comme c'est la première fois dans ma vie que je pouvais descendre bas, en tout cas dans ma vie personnelle. Et je suis allée, et un groupe de prière a démarré cet après-midi-là. Une des quatre, nous étions quatre, une des quatre, elle a dit, nous allons lire la Bible. Elle dit, André, as-tu déjà ouvert la Bible? J'ai dit, jamais. Ben, elle dit, on va lire la Bible tranquillement, on va aller dans la Genèse. Alors, elle a lu quelques passages que j'écoutais. Et la semaine suivante, je suis retournée. Puis petit à petit, d'autres dames sont venues s'ajouter au groupe. Et notre groupe, maintenant, a démarré le 5 juin et il existe encore. Nous allons commencer notre 25e année le 5 juin dans 2 mois. Et le groupe de prière existe dans notre maison, chez nous, à Gilles et à moi, depuis 20 ans, le lundi matin. Et j'ai la grâce, et nous avons la grâce extraordinaire d'avoir la messe tous les lundis dans notre maison. Imaginez, la messe chez moi, dans ma maison, moi qui pensais au suicide, mais regardez comment le bon Dieu est d'une... Il a mis son tablier, mais pas à peu près, hein. Et avec les années... J'ai découvert à travers les livres. C'est là que ça m'a aidé à reprendre le tablier pour être au service des autres. Plusieurs parmi vous peut-être connaissez Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Et ce sont des visions qu'une dame dans les années 40 a reçues, 10 tomes. Qu'un prêtre de la paroisse, après une messe, est venu me trouver, puis il a dit, André, apporte ça chez vous, puis lis ça. Oh mon Dieu, c'était 2-3 mois après le 5 juin. Je me mets à lire ça, et j'étais tellement bouleversée de ce que je lisais, je suis littéralement tombée en amour avec le Christ. Et j'ai pris conscience que je ne le connaissais pas. Parce qu'on m'avait inculqué un Dieu sévère, juge, lointain, apeurant, pas du tout proche de moi, et qui attendait juste le moment de me juger sévèrement. Et dans ce livre-là, le Seigneur s'est présenté à moi d'une tendresse, d'une douceur, d'une délicatesse pour dire, mais ça n'a pas de bon sens, j'ai l'ancien que j'ai connu, j'ai toi, lequel est le vrai dans tout ça? Mais la douceur que je vivais à l'intérieur de moi, les guérisons qui rentraient en moi, les libérations qui me remplissaient, ça pouvait pas être l'ancien, c'était le nouveau. Et j'ai cheminé avec ce nouveau Jésus-là à travers des agapé-thérapies pour aller me libérer, me laisser guérir encore plus profondément. J'ai lu les 10 livres, je les ai relus et je les ai tous à la maison et je finis le 9e présentement, qui est la Passion, pour la 6e fois. Je les savoure encore et je vous jure, là, je suis littéralement tombée en amour. Et Jésus s'est présenté avec moi, à moi, par des événements pleins de délicatesse. J'avais dit à la radio une fois, peut-être si vous l'écoutez, ça va vous dire quelque chose, au groupe de prière, dans les premiers temps, une religieuse m'avait dit, André, arrête d'avoir peur du bon Dieu. Il vient jamais en tracteur, il vient toujours en pantoufle. Et moi, ça m'avait adouci ma crainte. J'avais pris ça comme pour du cash, c'est une image, mais je l'ai intégré dans ma vie, en pantoufle, ça fait pas de bruit, c'est pas agressant, c'est tout doux, et souvent des pantoufles, hein, c'est feutré, ça blesse pas le pied. Alors, je me suis laissée couler dans cet amour extraordinaire que le Seigneur avait pour moi. Et à travers ce livre-là, j'ai fait des grands pas et j'ai eu le goût de reprendre le tablier. Et le Seigneur m'a emmenée aux exercices de Saint-Ignace avec Hélène Verrette qui est ici. Je ne sais pas si elle est là ce matin. Hélène, on a fait les exercices de la vie courante ensemble pendant 4 ans avec un beau groupe. Et de là, le Seigneur m'a signifié en faisant de l'adoration, parce que je n'avais jamais adoré avant, moi je ne comprenais rien. Et là, j'ai été saisie par le cœur adorateur du Christ qui est venu me prendre et me dire, vivons de l'intimité ensemble. Viens me voir. J'ai tellement de choses à te donner, à t'apprendre, à te faire découvrir. On va avoir une relation amoureuse. Et j'ai accueilli ça, puis j'ai dit oui. Alors, j'ai abouti à Michel Sarrazin pendant 8 ans à laver les pieds des cancéreux. Et ça a été une expérience absolument unique pour moi. J'ai appris beaucoup et j'ai surtout appris à ne plus avoir peur de la mort. J'ai communiqué avec des gens. J'ai appris aussi par un autre livre qui s'appelle « Quand le Seigneur parle au cœur » du père Gaston Courtois. Un petit bijou que vous connaissez peut-être. Et le père Gaston Courtois, en fin de vie, parce qu'il avait beaucoup d'intimité avec Jésus, puis il avait beaucoup de locution intérieure, c'est après son décès qu'ils ont trouvé des petits bouts de papier, puis ils ont imprimé ce livre-là. Le Seigneur, parce qu'il était malade, il était plus efficace, il ne pouvait plus célébrer la messe, puis il avait dit à Jésus, je suis plus bon à rien, je ne sers plus à rien, puis le Seigneur lui avait dit, tu entres dans la période la plus féconde de ta vie. Et moi, ça m'avait fessé, ça. Qu'est-ce que c'est ça? La période la plus féconde de ta vie, et je suis inutile, et je suis dans un lit malade. Et quand j'ai médité ça, puis j'ai accueilli ça, le Seigneur nous montrait, à nous tous ce matin, le chemin de l'offrande. Il n'y a rien d'inutile. Il n'y a rien de perdu quand j'offre tout. Quand je dis oui à tout. Puis un autre livre encore qui a été pour moi la suite, parce que je vous dis, moi, ce sont les livres qui... Jésus passe beaucoup par les livres qui, avec lesquels j'ai eu une profondeur et je suis en démarche pour encore plus rentrer dans une... encore plus profondément dans l'intimité, c'est ce livre-là. Excusez. Pour le bonheur d'un lien, mais choisi Jésus, avec Léon de la Chance, un homme qui demeure à Sherbrooke, qui a vécu comme l'abbé Gaston Courtois, il a vécu pendant plusieurs années une grande intimité, puis Jésus lui écrivait, puis disait, « Écris, un jour tu comprendras. » Alors, il y a 3 livres, celui-ci c'est le numéro 3, des livres, ça a été écrit dans les années 1996 à 2002 environ. Et encore là, le Seigneur a permis, au mois de janvier 2000, qu'on frappe à ma porte. Je vais ouvrir, c'est une voisine qui a ce livre-là dans la main, le numéro 1. Elle dit, André, je suis en train de méditer, puis elle dit, le Seigneur m'a dit, tu vas donner ce livre-là à Gilles Lanier. Mais mon mari n'est pas là, il est au travail. Alors moi, je prends le livre. Je lis ça, puis j'ai dit, le connais-tu, lui? Elle dit, je le connais pas personnellement, mais je connais la spiritualité. Mais le Seigneur a quelque chose à vous dire, accueille-le. Depuis le 8 janvier 2000, que mon mari et moi cheminons avec ces livres-là, qui est exactement ceci, mais comme actualisé pour le peuple d'aujourd'hui. Le Seigneur l'a préparé pour maintenant. Comment vivre d'une façon concrète la parole de Dieu. Puis dans un enseignement pour rejoindre le père Gaston Courtois qui se sentait inutile, puis je pensais à tous mes malades à Sarrazin, puis je pensais à tous les gens dans les foyers, des gens qui trouvent les journées longues, puis... qui mon fils n'est pas venu me voir, puis j'attendais de la visite, puis ils sont pas venus, puis ils s'ennuient dans les foyers, les CHSLD, puis les hôpitaux. Puis comment de gens qui auraient, par l'offrande, qui deviendraient, ça serait extraordinaire, mais personne n'est là pour leur dire. Moi, je rêve du jour où on va prendre les gens dans les foyers. On leur donne un chapelet, puis on les réunit dans une salle un après-midi pendant 1 heure, puis on médite le chapelet ensemble, puis on offre ça à Jésus pour qu'il puisse tout aller offrir au Père, pour toutes les conversions autour de nous, puis Dieu sait que le Québec en a besoin, puis le monde entier en a besoin comme jamais. Et c'est toutes des offrandes, non pas perdues, parce qu'il y a encore des belles âmes qui offrent, mais ça sera encore plus contagieux, toutes ces belles personnes à qui on pourrait enseigner à devenir féconds dans l'invisible. Parce que mettre le tablier pour aller aider à quelqu'un qui a besoin à Sarrazin, qui a besoin dans les hôpitaux, on met le tablier d'une façon physique, c'est-à-dire je suis là, je suis à ton service, puis je viens t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Des fois c'est de l'accompagnement spirituel, des fois c'est juste de l'écoute, des fois c'est une parole d'encouragement, des fois c'est donner un soin. Il y a plein de choses dans le visible, mais il y a la fécondité spirituelle dans l'invisible. Puis le Seigneur disait à Léandre, le 23 mars 2001, « En voyant vos forces diminuer, vous avez l'impression de perdre de l'efficacité. C'est tout le contraire qui se produit. Ce que vous perdez dans votre dimension physique, vous en regagnez 10 fois plus au niveau de votre cœur et de votre esprit. 10 fois plus. Ce que vous perdez d'une façon visible, vous en regagnez 10 fois plus d'une façon invisible, qui s'appelle l'offrande. Alors, quand dans une journée, vous avez une contrariété, un rejet, une blessure quelconque, une joie, un goût de vivre ou un mal de vivre ou une déception, un projet, puis ça tombe à l'eau, puis vous êtes déçu. Allez tout déposer dans l'offrande de Jésus. Rentrez à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'adoration. Vous n'avez pas besoin d'être dans une chapelle. Ça peut être dans votre cuisine. Ça peut être dans votre chambre. Allez vous ressourcer intérieurement, puis dites, Jésus, je t'offre cette souffrance pour toutes les personnes qui ont vécu des déceptions aujourd'hui, mais qui ne savent pas qu'elles peuvent offrir leur déception. Je les dépose toutes ces personnes-là dans ton offrande et va tout porter au Père. Vous avez reçu un rejet. Seigneur, je t'offre mon rejet, mon bouleversement, ma peine. Puis je t'offre en même temps toutes les personnes qui aujourd'hui, hier, la semaine dernière, ont vécu des rejets. Tu l'as été, toi-même, le premier, t'as été rejeté. Tu sais ce que c'est, t'as tout vécu. Je les dépose en toi, ces personnes-là, dans ton offrande, dans tes saintes plaies, dans ton cœur blessé, bafoué, rejeté. Et prends-les tous, puis va toutes les porter au Père. Et ça porte du fruit. 10 fois plus. Moi, je me dis, si ce matin, à travers ce que je me suis permise de vous donner comme témoignage, vous retenez juste ça, l'offrande. À partir de maintenant, tout ce que je vivrai, je l'offrirai. Parce que j'apprends que, des fois, on n'y pense pas. Mais c'est une habitude à développer, d'aller tout déposer dans le cœur de Dieu. Et un jour, quand vous vous présenterez devant le Père, vous aurez une palette de couleurs, d'âmes, puis le Seigneur dira, viens-t'en, garde, te souviens-tu, tu m'avais offert ta déception, puis je sais, moi, comment tu souffrais, puis je souffrais avec toi. Puis je te dis, je te donne mon oui à souffrir ça avec toi, Jésus, puis je te dépose toutes les personnes qui, eux, ne savent pas le chemin. Je les amène avec moi, puis je te les offre. Nous autres, la deuxième de nos enfants, elle a 37 ans, elle est psychologue. Elle a fait des études à Laval, et son père lui a fait payer des études en Europe. Elle est très instruite. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Et Avec cet enfant-là, nous sommes très liés avec les deux autres, mais avec celle-là, elle a perdu contact avec nous il y a 13 ans quand elle a connu son époux. Alors nous avons deux petits-enfants que nous ne connaissons pas. Elle demeure à 5 minutes de chez nous. Nous n'avons pas le droit d'entrer à la maison. Nous n'avons pas le droit de voir nos petits-enfants. C'est une épreuve, je crois, la pire, comme parents et grands-parents. Nous rêvions d'une famille unie, je vous l'ai dit au départ. Et là, à 72 ans, qu'est-ce que vous pensez que je fais avec tout ça? Pour donner un sens à ce qu'il n'a pas, pour accepter ce qui ne s'accepte pas, nous l'offrons. Nous la déposons tous les jours et toutes les familles qui vivent la même situation que nous. Puis depuis qu'on vit ça, on est entouré de gens qui vivent la même chose que nous, une famille divisée. Il y en pleut présentement. Nous sommes entourés de gens blessés avec des familles désunies. L'offrande. Comment cela se fera-t-il, la réunification de notre famille? J'en ai aucune idée. Dieu a son plan, moi je ne le connais pas. Mais j'ose croire qu'il y en a un. C'est ma foi qui me le dit. Et je mets mon tablier dans l'invisible. Je veux porter du fruit, j'ai dit à Jésus, moi, là, quand je vais me présenter devant toi, je vais avoir les mains pleines. Je veux un panier de fruits, mais les fruits que toi, tu me feras porter en t'offrant. C'est la seule chose que je peux faire, t'offrir. Je mets mon tablier maintenant dans l'invisible. Je suis encore active au niveau du physique. Je vais servir des repas avec les petites sœurs de Mère Teresa, les missionnaires de la charité, le mercredi. Je leur donne des cours de français parce que ce sont des petites femmes qui viennent des Indes. Puis Gabrielle est là, puis elle leur donne des cours de français, elle aussi. Alors nous portons de l'extérieur et de l'intérieur notre tablier. À être des êtres de service auprès des démunis. Puis vous le faites, je suis sûre, de mille et une façons, vous, chacun et chacune, dans vos milieux respectifs. Mais n'oubliez pas de porter du fruit dans l'invisible. Pour moi, c'est très important que vous reteniez ça ce matin. Ça va donner une dimension extraordinaire. Et j'avais apporté le chant. C'est Gilles, voudrais-tu, s'il vous plaît, c'est un chant de Robert Lebel, « Comme lui savoir dresser la table ». Est-ce qu'on l'était tout? Bon, ça dépend de là-haut. Oh, déjà, je pense que j'ai fini, moi, là. On pourrait en faire juste ça. J'avais plein d'autres choses à vous donner, mais je pense que pour ce matin, là, je vois, il est presque 11h30, alors je ne vais pas dépasser l'heure. Alors, on pourrait chanter ensemble. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes une belle palette de personnes écoutantes.